vous accompagne en vacances, au bureau, au village, à la maison, où que vous soyez, pour que 2021 soit une année digitalement excellente. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui peut constituer une urgence médicale, la méningite. Et nous allons nous arrêter en particulier sur la méningite à méningocoque qui, si elle n'est pas traitée, peut se révéler mortelle dans la moitié des cas. Infection potentiellement fatale ou susceptible de laisser des séquelles sévères en provoquant notamment des lésions cérébrales. Nous allons bien sûr parler des symptômes qui doivent conduire à une prise en charge immédiate, mais aussi des autres formes de méningite provoquées par un virus qui sont à la fois plus fréquente et moins dangereuse. Cette maladie, de par sa fréquence, vaut à une large zone de l'Afrique subsaharienne d'être surnommée la ceinture de la méningite. Un ensemble de plus d'une vingtaine de pays, du Sénégal à l'Éthiopie, où des campagnes de vaccination de masse ont été entreprises ces dernières décennies afin d'éviter les grandes vagues, en particulier pendant la saison sèche entre les mois de décembre et de juin. Alors, quelle attitude adopter face à des symptômes qui évoquent une méningite ? Quelles sont les populations les plus exposées ? Pourquoi la vaccination est-elle essentielle ? C'est notre sujet du jour dans Priorité Santé. Et pour nous éclairer sur ces maladies infectieuses, on retrouve en ligne de Guyane, de l'autre côté de l'Atlantique, le docteur Nicolas Vignier. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue au centre hospitalier de Cayenne, donc en Guyane. Méningite à méningocoque particulièrement redoutable pour les jeunes enfants et les jeunes adultes. On retrouvera en ligne du Sénégal le professeur Amadou Sidika, chef du service du centre pédiatrie ambulatoire à Dakar au Sénégal. Donc, et comprendre les effets à long terme d'une méningite bactérienne sur la santé. On va donner la parole à notre témoin du jour, Anna Silla. Elle a contracté cette infection il y a 2 ans et en porte aujourd'hui encore les séquelles. Et en fin d'émission, on retrouvera la chronique nutrition de Stéphane Besançon, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali.
Priorité santé sur RFI.
Et d'abord, docteur Vignier, est-ce qu'on doit parler de la ou des méningites, dans la mesure où, en fonction de l'agent infectieux, un virus ou bactérie, eh bien, les risques ne sont pas tout à fait les mêmes.
Donc, en effet, on parle des méningites, parce qu'en fait, il y a beaucoup de causes différentes de méningites, à la fois des bactéries, des virus et même des parasites. Et donc, on va en aborder, je pense, certaines ce matin.
Méningite à méningocoque, à pneumocoque, c'est quoi la différence entre ces deux premières méningites ?
Donc, en effet, c'est deux causes très importantes de méningite, qui sont toutes les deux des bactéries, donc que l'être humain peut porter au niveau de sa gorge de manière normale. Et en fait, quand la bactérie arrive à pénétrer l'organisme, elle peut infecter la poche qui entoure le cerveau. Et ça donne ce qu'on appelle la méningite, qui est une maladie grave qui nécessite d'être prise en charge en urgence.
Et qu'est-ce qui va conduire justement que pour certaines personnes, dans certains cas, il y ait, on va dire, cette migration de l'agent infectieux vers une zone ultra-sensible ?
Alors c'est un petit peu le fait du hasard, mais ça peut être facilité par les irritations de la gorge, et c'est notamment ce qui se passe dans la ceinture de la méningite en Afrique pendant les saisons de l'harmattan, où en fait il y a cet assèchement des muqueuses qui favorise le passage de la muqueuse vers l'intérieur du corps, vers le liquide qui entoure le cerveau.
Docteur Nicolas Vignier, est-ce qu'on peut définir, décrire en tout cas les symptômes qui valent pour les différents types de méningite ? Et on va le voir après, il faudra des examens complémentaires pour aller plus loin, pour déterminer justement la nature de cet agent. Alors du côté des symptômes, c'est quoi ?
Alors les symptômes, souvent c'est des troubles neurologiques accompagnés d'une raideur de la nuque, donc le cou qui fait mal, qui est dur, et de la fièvre. Après, les symptômes peuvent être très variables d'une personne à l'autre. Et quand ça concerne des jeunes enfants, ils sont pas du tout spécifiques. Donc ça va être un comportement anormal, un enfant qui est moins réactif, voire dans le pire des cas, une perte de conscience.
Donc l'importance à partir de ce moment-là, c'est d'identifier la nature précise de la maladie. Docteur Nicolas Vignier, on fait comment ? Bien sûr, on consulte un médecin. Il va procéder à quel type d'examen ?
Alors, en effet, quand on craint une méningite parce qu'il y a le cou qui est raide avec de la fièvre ou des troubles neurologiques ou de la conscience, le mieux c'est d'aller directement aux urgences, hein, donc de pas perdre des heures en allant par exemple chez le médecin traitant pour cette cause-là, parce qu'on va devoir faire un examen qui s'appelle la ponction lombaire, qui consiste avec une aiguille à prélever un petit peu de liquide autour de la moelle épinière dans le bas du dos. Et cet examen est fait plus facilement aux urgences qu'en ville. Et donc, on va le faire dès l'arrivée du patient et on va regarder au microscope si on voit des bactéries et si on voit des globules blancs dans ce liquide qui confirmeront le diagnostic de méningite.
Et on ne sait jamais s'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui sont dans cette situation. Quand on arrive aux urgences, on se signale aussi pour être isolé parce que c'est une maladie qui est excessivement contagieuse et dangereuse.
Alors, tout à fait, pour ce qui est de la méningite à méningocoque, il peut y avoir une transmission d'une personne à une autre, comme on le porte au niveau des muqueuses de la bouche. C'est pas le vrai de toutes les méningites, mais pour celle-là, oui. Et donc, tant qu'on n'a pas la certitude, on isole le patient.
Pour certains types de méningite, précisément, docteur Vigny, on entend l'expression de méningite fulgurante. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben en fait, chez certaines personnes, ça peut aller très vite. Donc, c'est notamment le cas avec le méningocoque, hein, qui peut être très virulent. Les gens peuvent aller très bien et d'un coup avoir des troubles neurologiques et des troubles de la conscience et même décéder en quelques heures. Donc, c'est pour ça qu'on parle de fulgurance, hein, on parle aussi de purpurale fulminance, où il y a à la fois des atteintes cutanées et des états cliniques très graves.
Atteintes cutanées, on peut décrire, c'est des petites taches rouges, on appelle ça des pétéchiles, on va dire comme des vaisseaux qui exploseraient, par exemple, au niveau des mollets, sur certains des membres.
Alors, tout à fait, on peut voir dans la méningite à méningocoque une atteinte générale et en particulier avec des signes cutanés qui sont de purpura, donc c'est des taches un peu rouges violacées qui s'effacent pas quand on appuie dessus. Ça doit inquiéter dans un contexte de fièvre ou de trouble de la conscience ou de raideur de nuque. Et donc, c'est une indication de prise en charge en urgence en France par le SAMU ou ailleurs en amenant très vite le patient à l'hôpital.
Autre expression, méningite invasive, qu'est-ce que ça signifie?
Invasif, ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est les formes fulminantes qui vont toucher à la fois le cerveau mais aussi le sang et où les choses peuvent se dégrader rapidement.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des populations à risque face aux méningites? Je parle en particulier des méningites bactériennes qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui, docteur Nicolas Vigné, que la maladie frappe plus certaines catégories de la population?
Alors oui, alors déjà en fonction des causes, c'est pas toujours les mêmes populations, mais déjà les enfants et les nourrissons sont particulièrement concernés par les méningites. Ça a fait beaucoup de dégâts dans l'histoire de l'humanité, même si on a beaucoup progressé grâce aux vaccinations. Et sinon, il y a toutes les populations immunodéprimées et les drépanocytaires aussi, qui sont particulièrement concernés par les méningites à méningocoque du fait d'une fragilité de leur immunité. Et donc, c'est trois populations clés dans les méningites.
Alors, vigilance, on l'a compris, en particulier pour les enfants. Il y a cette question Facebook de Junior, qui est en République démocratique du Congo, et qui demande à partir de quel âge la maladie peut-elle attaquer l'enfant?
Eh bien, dès la naissance, il n'y a pas d'âge pour la méningite, donc malheureusement, ça peut survenir très tôt.
Alors, pour certaines maladies, il y a les gestes barrières, bien sûr, mais pour la méningite, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans une zone où, vous le disiez, s'il y a un vent, s'il y a du sable, si tout ça assèche l'atmosphère, si les muqueuses sont en mauvais état, il n'y a pas vraiment de moyen de prévention, si ce n'est le meilleur moyen d'entre tous, la vaccination.
Ben, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais. En fait, il y a quand même un moyen de prévention majeur et très efficace, c'est la vaccination. Donc, on dispose de vaccins contre plusieurs causes de méningite, hein, le méningocoque, mais aussi l'hémophilus et le pneumocoque. Et donc, il faut vraiment mettre à jour les vaccinations des enfants. En ce qui concerne nos voyageurs également, on peut vacciner contre la méningite ceux qui se rendent dans la ceinture de la méningite ou en pèlerinage à la Mecque. Et en dehors de la vaccination, on peut essayer de se protéger un petit peu les muqueuses, éviter de trop s'exposer au vent, au froid, etc. Mais en effet, c'est relatif, c'est pas simple de gérer ça.
Alors, en deuxième partie d'émission, on va revenir justement sur cet aspect régional, la ceinture africaine de la méningite. On évoquera encore la vaccination parce que c'est vraiment l'essentiel. Mais tout d'abord, docteur Nicolas Vigné, ce témoignage.
Priorité santé sur RFI.
Témoignage avec vous, Anna Silla, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez contracté une méningite à méningocoque, c'était il y a combien de temps ?
Il y a 2 ans, ça va faire 2 ans bientôt.
Alors racontez-nous s'il vous plaît, dans quelles conditions le diagnostic a-t-il été posé ?
Je ne pourrais pas vous dire exactement comment ça s'est passé, puisque comme l'expliquait le docteur Vignier, ça a été assez fulgurant. Mmh. J'ai été malade le mardi dans la journée. Mmh. Et le mardi soir, j'étais dans le coma. Donc je me suis réveillée qu'après, et c'est là que j'ai su que j'avais eu une méningite.
Entre-temps, vous aviez appelé les secours ?
Oui, on avait appelé les pompiers. Mmh. Et finalement, c'était SOS Médecin qui s'est déplacé en disant que c'était qu'une grosse grippe, que ça allait passer, donc avec une ordonnance, etc. Parce qu'il avait pris mes constantes, tout était bon. Mmh. Pour eux, il n'y avait pas de fièvre, hein, les constantes étaient bonnes. Et pour eux, j'étais soit droguée, soit alcoolisée.
Et c'était quoi justement, vous, ce qui vous avait motivé pour les appeler, hein ? On n'appelle pas les secours pour rien, vous vous sentiez mal, vous ressentiez quoi ?
Je n'arrivais plus du tout à ouvrir les yeux. Mmh. J'avais mal à la tête. Pour le coup, je peux pas vous dire exactement si vraiment j'avais mal au cou. Je sais que je me tenais pas mal les cervicales maintenant. C'est quelque chose que je faisais aussi avant.
Mmh. Et vous, ils vous ont stigmatisé avec cette accusation d'être alcoolisé, même si c'est loin d'être un crime, sans faire aucun test comme ça de visu en disant madame.
Non, de visu. On m'a vu et en fait je criais, j'arrivais pas à me calmer en fait, de ce qu'on m'a raconté, puisque je ne me souviens de rien du tout. Mmh.
Vous étiez en état de panique, criais. On peut dire.
Oui, clairement. Enfin, ouais. Je supporte assez bien la douleur. Ouais. Et là, c'était un mal de tête insurmontable.
Oh, d'accord.
C'était, j'étais en train de pleurer, je perdais conscience de ce qu'on me disait. Enfin, je me rappelle de rien. Ensuite, donc les pompiers sont arrivés puisque le médecin ne comprenait pas et que je ne me calmais pas. Mm-hmm. J'aurais refait un malaise à ce moment-là. Pareil pour eux, c'est la même chose, alcoolisé ou drogué. Et finalement, à ce moment-là, je suis tombée dans le coma donc chez moi et à ce moment-là, ils ont dû m'emmener à l'hôpital.
Et là, j'imagine qu'il y a eu une ponction lombaire. Vous êtes sortie de votre état, justement, comateux au bout de combien de jours ?
Au bout de 5 jours.
5 jours, totalement inanimé. À ce moment-là, qu'est-ce que vous réalisez ? Est-ce que vous êtes en état de réaliser quelque chose ?
Non, je ne comprends rien. En fait, j'ouvre les yeux d'un coup. Mmh. J'ai mal partout. J'ai des tuyaux dans la bouche. J'ai une poche, je comprends rien, j'ouvre les yeux, je vois des lumières, je vois ma famille autour de moi, et c'est le stress. C'est le stress complet.
Et on vous donne le nom de la maladie dont vous souffrez ?
Oui.
Et vous en aviez déjà entendu parler avant ?
Honnêtement, j'en avais entendu parler, mais pour moi, c'était une grippe, c'était pas aussi important, c'était pas, j'en avais pas entendu parler, enfin, je pensais pas qu'il y avait déjà 2 sortes de méningite. Mmh. Et je ne pensais pas que ça pouvait être aussi fatal, quoi, et aussi fulgurant.
Alors là, c'était bien une méningite à méningocoque. En quoi a consisté votre prise en charge ? J'imagine très forte dose d'antibiotiques, une hydratation. Vous aviez quoi comme traitement ?
Vous voulez la liste des médicaments ou...
Non, pas tout, mais en fait, vous aviez quoi ? Vous étiez, j'imagine, sous perfusion déjà.
Ah oui. Je suis restée déjà 3 semaines à l'hôpital après ça. Parce que du coup, mon système immunitaire a été assez détraqué. Après ça, du coup, j'ai attrapé pas mal de choses derrière. Mm-hmm. Mais oui, j'ai été sous perfusion, j'ai eu 3 ponctions lombaires. Mm. On m'a fait des IRM. J'ai pas arrêté de faire des scanners aussi. Enfin, voilà. Énormément de tous les jours des prises de sang. À la fin, on a dû me mettre une pompe, une valve, vous savez, au niveau dans la poitrine, parce que finalement, à la fin, on n'arrivait plus à prélever du sang. Il fallait vraiment le faire tout le temps. Donc, c'était contraignant.
Et quand vous êtes rentrée chez vous, vous étiez, si j'ose dire, Anna Silla, dans quel état ? Vous étiez capable de marcher ? Vous étiez alitée toute la journée ? Vous étiez comment ?
Déjà, la première fois que j'ai marché, c'était très compliqué. Ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, il y a encore des séquelles. En rentrant chez moi, j'étais déboussolée. On comprend pas, parce qu'on reste toujours dans le « mais pourquoi ?» à l'hôpital. Et puis un coma, on se dit on a perdu quand même 5 jours et ces 5 jours on comprend pas. Mmh. Et on se dit mais on n'arrête pas de se poser des questions. Qu'est-ce que serait devenu ma famille? Qu'est-ce que donc en fait on est déboussolé tout le temps et on n'a pas de force. On a voilà, c'est des courbatures constantes, des maux de tête, parce que du coup la méningite attaque. Enfin, on a un rapport aussi forcément avec l'ouïe et la vue. Donc c'est les petits bruits qui sont dérangeants constamment, les lumières où des fois je peux avoir des petites taches dans les yeux, on peut marcher, on a encore essoufflé, enfin c'est bon, ça va mieux, mais il y a d'autres choses qui sont arrivées aussi derrière quoi.
Vous avez eu d'autres problèmes derrière. Est-ce que, on a parlé tout à l'heure, on a décrit avec le docteur Vigny, hein, qui est à l'écoute bien sûr, on a décrit la maladie. Est-ce que vous vous posez encore des questions sur votre propre cas, Anacilla? Est-ce que vous auriez des questions à lui poser?
Oui, tout à fait.
Bah, allez-y, bah, c'est l'occasion.
Elles sont, elles sont constantes, elles sont... Mais déjà, en fait, je ne comprends pas qu'on n'en parle pas autant de cette maladie. Parce que même si on entend parler, enfin, je ne pense pas que les gens se disent que ce soit aussi grave que ça. Pour les gens, c'est une grosse grippe. Et voilà, il faudrait faire attention. Exactement, à peu près comme le Covid. C'est dans l'air, donc il faut vraiment faire attention.
Aujourd'hui, vous avez encore des maux de tête, vous avez des douleurs au, au cervical. La fatigue aussi?
Une fatigue constante, ça veut dire bon, bah, je peux avoir la pêche là dans 5 minutes et au bout de 10, et ben, ça y est, j'en peux plus. Les maux de tête vont arriver comme ça.
Ça a altéré votre vie, votre travail, tout
Oui. Ah oui, oui. Bah, depuis, bah, je ne travaille pas. Je passe mon temps chez les médecins, kiné, à refaire encore des examens, prise de sang. Voilà.
Comment est-ce que vous percevez tout ça? On sent quand même une souffrance hein, d'avoir pris une sorte d'immense claque et puis aujourd'hui d'être toujours très fragilisé. Est-ce que vous arrivez à dire je souffre psychologiquement ou c'est difficile?
C'est difficile, c'est mais difficile. Je sais que c'est ça, on le sait. On est conscient que c'est ça parce que ben, y a un gros ras-le-bol. Déjà, on se demande pourquoi nous, enfin, on n'a rien fait. Enfin, voilà, on a ben, encore les mêmes questions qui reviennent. Qu'est-ce qu'aurait fait ma famille sans moi? Et pour fin, pourquoi ça dure aussi longtemps? Parce que ça va faire 2 ans. Ces séquelles, est-ce qu'elles sont normales? Parce que ben, du coup, on me balotte de médecin en médecin. Et même moi, en fait, mine de rien, j'en peux plus. On doit avoir un psy. Finalement, on me dit que je dois avoir un psychiatre au lieu d'un psychologue. Enfin,
Vous êtes perdu face à tout ça. Docteur Nicolas Vigné, comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage? Il y a énormément de choses hein, dans ce témoignage d'Anacilla. Il y a le choc d'abord, et puis aussi la violence de ne pas avoir été crue alors qu'elle avait des symptômes tout à fait puissants, évocateurs. Et puis ensuite, il y a un petit peu cette façon d'être un petit peu laissé, moi j'ai l'impression, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, d'être un petit peu laissé dans la nature, non?
Oui, tout à fait. Bah, bonjour, Madame Silla. Donc, en effet, il y a beaucoup de choses essentielles dans votre témoignage. Donc, si je reviens en effet sur le moment où votre méningite a été diagnostiquée, bah, on voit bien la difficulté déjà d'y penser hein, pour les médecins. C'est pour ça que j'invitais tout à l'heure vraiment toute personne qui suspecte une méningite à plutôt se présenter d'emblée aux urgences où le diagnostic est un peu plus aisé, parce qu'on peut prendre la température, on fait un examen les personnes allongées, et puis on va facilement aller à la ponction lombaire si on a un doute, alors que c'est des choses qui ont tendance à traîner quand on est plus en ville ou avec les SOS médecins, etc. En plus, la méningite, on l'a pas dit tout à l'heure, mais parmi les symptômes, ça peut en effet donner des troubles du comportement. Donc, je vous ai entendu dire,
la panique.
J'étais agité, je criais. Et donc ça peut confondre un petit peu le médecin qui peut penser à d'autres choses. Et donc en effet, les toxiques ou autres consommations peuvent aussi donner des troubles du comportement. Et donc si la fièvre n'est pas présente ou si elle n'est pas recherchée, eh ben on peut se tromper. Donc c'est pour ça qu'il faut être un peu systématique quand on est médecin dans l'examen clinique pour bien rechercher cette raideur de la nuque et être attentif à certains symptômes que vous avez cités. Comme le mal à la tête très important, vous avez dit il y avait la lumière et les bruits qui résonnaient, qui me gênaient. Exactement. Donc on appelle ça la photophobie et la phonophobie. Donc quand on a mal à la tête, qu'on a de la fièvre et que la lumière du jour et les sons nous dérangent, Ça, c'est évocateur de méningite. Mm-hmm. Et si en plus il y a une raideur du cou, hein, qui est pas constante, hein, peut-être que chez vous vous l'aviez pas, et peut-être c'est pour ça qu'ils se sont trompés au début. Donc tout ça, ça doit évoquer. Et donc c'est une urgence. Et la seule manière de savoir, c'est la ponction lombaire. Donc il faut être amené à l'hôpital. Donc c'est vrai qu'on aurait pu souhaiter dans votre cas que les choses aillent un petit peu plus vite, mais bon, c'est la vraie vie. Ensuite, je reviens pas sur la prise en charge, mais je pense que votre cas illustre, de manière un petit peu dommageable pour vous, la gravité de la méningite. Et donc, je pense que tout le monde en mesure les conséquences éventuelles en vous écoutant. Et donc, votre interrogation principale, c'est pourquoi pas plus de prévention? Pourquoi on n'en parle pas plus? Eh ben, vous avez raison, et je pense que c'est ce qu'on fait ce matin, et c'est bien, mais c'est pas suffisant. Mais peut-être, si on veut comprendre ça, c'est lié au fait que ça reste une maladie qui est relativement peu fréquente, et du coup, qui se noie un petit peu dans les priorités de santé publique. Et là, par exemple, dans un contexte de Covid, évidemment, le Covid prend toute la place.
J'ai vu les chiffres en France, 1300 cas en France. C'est vrai que, au regard du Covid, où on en est à 25 000 par jour, bien sûr, pas avec la même gravité, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'être en concurrence.
Voilà. Alors, parfois, on en parle plus quand il y a des situations particulières. Par exemple, il y avait eu une circulation épidémique du méningocoque dans le nord de la France. Mm-hmm. On en avait beaucoup parlé à cette époque-là. Quand il y a des épisodes malheureux comme le vôtre, ça fait un peu les faits divers, mais c'est compliqué. Donc, en effet, il faut en faire un sujet. Il y a des associations qui œuvrent pour ça. Santé publique France est quand même sensibilisée à la question. Ils essaient de faire des choses. Il y a eu des sites internet créés, des plaquettes. Mais après, il faut aussi que tout ça se soit relayé sur les médias au niveau local.
Et en tout cas, une prise en charge qui peut être systémique, c'est ce qu'on entend avec Anna Silla. On traite l'infection, on traite aussi, peut-être pas suffisamment dans son cas, une forme de rééducation et puis de prise en charge psychologique.
Voilà, tout à fait. Donc, c'est la dernière chose sur laquelle je voulais rebondir. Parce que votre témoignage, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est là où vous en êtes. Et donc, malgré le temps qui passe, clairement, vous avez, je suis pas votre médecin, mais on comprend assez facilement que vous avez des séquelles, avec une fatigue qui persiste, des troubles peut-être neurologiques, si je comprends bien, qui vous empêchent de reprendre votre travail correctement. Et donc ça, c'est directement lié à l'infection que vous avez eue de vos méninges, de la poche qui entoure le cerveau, qui a un petit peu, abîmé... votre système neurologique. Et donc ça, en urgence, en fait, c'est les antibiotiques pour éradiquer la bactérie. Et donc, chez vous, la bactérie, elle est éradiquée dès les premiers jours de votre prise en charge à l'hôpital. Mais après, il y a ce qui reste, qui est de l'ordre de la séquelle. C'est comme quand vous coupez et que la plaie s'infecte, une fois qu'on a traité l'infection, après, il va rester une cicatrice quand même. C'est pareil dans la méningite. Donc après, il faut garder de l'espoir, parce que on peut récupérer quand même de ces troubles neurologiques, de cette fatigue post-infectieuse. Mais ça passe par la rééducation, et c'est un travail de longue haleine. Donc ce qui est important, c'est d'être entreprenant, de pas se décourager, de pas se laisser envahir un petit peu par les idées noires, et d'essayer d'aller de l'avant et de continuer. J'ai entendu que vous étiez accompagné par des kinésithérapeutes, et donc ça, c'est vraiment bien. Je pense que c'est
Docteur Vignier, rééducation, dans quel service, dans quelle spécialité?
C'est plutôt de l'ordre de la neurologie, là, pour le coup. C'est-à-dire que quand il y a des séquelles post-méningitiques, comme c'est le cas de Madame Silla, je sais pas où vous êtes accompagnée, Madame Silla, peut-être vous pouvez en témoigner, mais souvent, on fait appel aux compétences de nos collègues neurologues, et surtout de tout ce qui les entoure. Il y a des équipes d'ergothérapie, de kinésithérapie, de psychologie, qui sont spécialisées dans ces troubles neurologiques, et qui sont des services plutôt compétents, pour essayer d'accompagner ça.
Anna Silla, peut-être une dernière réaction à ce qui vient d'être dit par le docteur Vignier.
Oui, tout à fait. Alors, je comprends qu'il ne faut pas se laisser abattre, etc. Mais c'est vrai que quand on sort de l'hôpital, qu'on n'a pas d'aide, qu'on doit gérer sa maison avec les enfants, les repas, et qu'on n'est pas accompagné, c'est difficile. Après, ça va, moi, mes enfants sont quand même grands et que ils sont gentils, j'ai de la chance, il n'y a pas de souci, qu'ils m'aident beaucoup. Mais à côté de ça, chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il y a aussi des soucis de perte de mémoire.
Mais tout ça, ça doit être lié aussi à des séquelles neurologiques. Donc, cette prise en charge neurologique, elle est essentielle.
Mais du coup, voilà, on n'est pas assez accompagné en fait après, mm-hmm. et on est encore perdu, on est faible en fait, et personne ne se rend compte. Tout ce qu'on nous dit, c'est de faire des dossiers MDPH, mais dossiers MDPH, c'est compliqué après de se dire, on est handicapé mm-hmm. à même pas 40 ans. Et en fait, ce serait bien d'être accompagné, quoi, parce que avec tous les médicaments qu'on prend, forcément, il y a des choses, on peut pas conduire, mm-hmm. parce qu'on se dit, ils sont tellement forts ces médicaments-là mm-hmm. que si j'ai un accident, ce sera de ma faute. Mm-hmm. Clairement. Donc forcément, on ne peut pas avancer dans ces démarches parce que si je dois prendre les transports parce que je ne suis pas accompagnée, à un moment, je vais être fatiguée. Enfin, c'est un vrai cercle vicieux. C'est très compliqué.
On entend bien. Merci infiniment pour votre témoignage. Bon courage à Nassila. Docteur Vignon va se retrouver dans quelques minutes après une pause en musique. On donnera bien sûr la parole à des auditeurs tout de suite. Riles avec ce titre et à Verdad.
A verdade que me leva, é a verdade que me leva. Perdoa-me, ama meu amor, na escuridão ainda eu tô. É a verdade que me leva, é a verdade que slowly slept away. Didn't have nowhere to go but down. That life wasn't up to me. I was being sad, was just a trend. I wish I could start again. I wish on the inside would be more than just a man.
Priorité santé sur RFI, on parle toujours des méningites avec le docteur Nicolas Vigny, infectiologue au centre hospitalier de Cayenne, toujours en ligne de Guyane. Et on prend tout de suite la direction de la région dite ceinture de la méningite. On part pour le Tchad.
RFI N'Djamena, 100.2 FM.
Et on vous retrouve, Patrice, bonjour.
Bonjour.
Alors on vous écoute, vous vouliez parler du cas de votre sœur.
Oui, je voudrais parler de ma sœur qui a aujourd'hui 25 ans. Mm-hmm. Donc, ma sœur, à l'âge de 10 ans, a eu la méningite. Mm-hmm. Et je crois que moi, j'étais pas présent, mais d'après le récit de ma mère, juste après le coup de méningite, elle s'en est sortie, mais avec des séquelles où elle fait des crises. De temps en temps, elle fait des crises d'épilepsie. Mm-hmm. Parce qu'elle reste des moments moments d'absence. Mm-hmm. Pendant quelques minutes où elle balbutie, elle dit n'importe quoi. Et voilà, des fois, elle reste debout, elle tombe pas, mais elle raconte des choses qu'on ne comprend pas.
Mm-hmm. Elle a pas des crises d'épilepsie convulsives, mais elle a des absences et des moments où elle a une perte d'attention.
Exactement, elle raconte des choses, elle dit n'importe quoi.
Elle délire, oui.
Elle délire tout à fait, et après, quelques minutes après, elle se reprend, et puis voilà. Alors, ma question, c'est de savoir s'il y a un lien direct entre ces crises et l'épilepsie mm-hmm. qu'elle a eue.
Et la méningite passée. Question très précise à docteur Nicolas Vigny, cette question de Patrice. Lien possible entre la méningite et l'épilepsie, qu'est-ce que vous pouvez dire ?
La réponse est oui, hein. Donc on a évoqué tout à l'heure avec Anacilla certaines séquelles de méningite d'ordre cognitif, fatigue, mais une des conséquences, une des séquelles possibles de la méningite, c'est l'épilepsie. Ça peut d'ailleurs même être une manière d'en faire le diagnostic, parce qu'on peut aussi faire une crise d'épilepsie au moment de la méningite elle-même. Et ça, c'est lié au fait que l'inflammation du cerveau et que c'est le cerveau qui est à l'origine la cause de l'épilepsie. Et donc, ça peut malheureusement être une séquelle. Et quand c'est une séquelle, c'est pareil, il y a la rééducation, mais il y a aussi la possibilité de prendre un traitement anti-épileptique qui doit être prescrit par un neurologue ou par un médecin qui en a l'expérience et qui peut permettre de gérer les crises. Donc là, moi, je l'invite vraiment à se rapprocher d'une équipe spécialisée pour vérifier qu'elle a le bon traitement et voir si on ne peut pas trouver un équilibre médicamenteux.
Patrice, est-ce que votre sœur a vu un neurologue récemment ?
Elle n'a pas vu un neurologue, mais elle a vu un médecin généraliste.
Il lui a donné un traitement pour son épilepsie ?
Il l'a mis sous un traitement depuis 5 ans aujourd'hui.
Oui.
Mais cela n'empêche pas qu'elle continue à faire des crises de temps. Bon, quand elle ne prend pas le médicament, parce que voilà, elle n'est pas...
Est-ce que vous pouvez, à N'Djamena, vous rapprocher d'un hôpital qui aura un service de neurologie ?
Oui, c'est possible.
Je pense que ce serait la bonne solution, peut-être pour ajuster son traitement, trouver peut-être un médicament plus efficace pour limiter la survenue de ces crises chez votre sœur.
Oui, d'accord.
Très bonne journée à vous et puis vous saluez bien sûr votre famille de notre part. On va partir pour la République démocratique du Congo, où on va retrouver Thierry à Kinshasa. Thierry, bonjour.
Oui, bonjour Caroline, bonjour à l'invité.
Alors,
bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Et vous, dans votre cas, c'est votre frère, hein, c'est le cas de votre frère qui vous préoccupe, racontez-nous.
Oui, oui, au fait, je vous appelle concernant mon grand frère qui est actuellement âgé de 34 ans. Il avait été atteint de la méningite quelques mois après sa naissance, donc il était encore bébé. Il avait été pris en charge et était guéri de cette maladie. Mais malheureusement, bon, la maladie a laissé des séquelles qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Et il marche difficilement, il ne parle pas bien, mais aussi ses mains ne fonctionnent pas correctement. Maintenant, ma question était de savoir comment, que peut-on faire pour soigner ces séquelles et pour qu'il reprenne la vie normalement.
Question difficile, hein, 30 ans après la maladie, docteur Nicolas Vigné. Est-ce qu'une amélioration est envisageable ? Parce que Thierry décrit des problèmes liés à cette infection, des problèmes très importants.
Oui, tout à fait. Bah, là, encore une fois, on est dans le cadre des séquelles de la méningite. On voit bien qu'on est tard, donc la bactérie, la cause est résolue depuis longtemps. Et donc, ces séquelles, ces cicatrices qui donnent ça. Est-ce qu'il y a une marge de progression ? Bah, tout dépend de ce qui a déjà été fait. Mais quand même, ce qu'on voit parfois en Afrique, c'est que ces séquelles sont un peu négligées et ne font pas l'objet d'une rééducation adaptée. Et donc, je pense qu'il faut quand même ne pas négliger les marges de progression possibles dans le cadre d'une rééducation. Et pour ce qui concerne la parole, parce que vous dites que votre frère ne parle pas bien, après, c'est difficilement accessible en Afrique, mais il faut se renseigner. Nous, on adresse ces patients-là à des ergothérapeutes qui font un travail vraiment formidable. Et ça permet souvent de progresser la marche avec des kinés. Et puis, quand on n'a pas les moyens ou qu'il n'y a pas l'offre, il y a aussi ce qu'on peut faire soi-même dans le cadre de la famille, c'est-à-dire prendre du temps pour ces convalescents, pour les stimuler, les faire marcher, essayer d'améliorer leurs apprentissages. Et c'est vrai qu'on voit parfois des personnes qui ont certains handicaps, qui sont laissées un petit peu de côté, enfin qui font partie de la société, mais qui font pas, qui sont pas en interaction permanente. Donc il faut éviter de les laisser un petit peu assis à côté. Il faut essayer d'interagir avec eux, de faire des activités avec eux, et tout ça, c'est susceptible de les faire progresser.
Stimulation, participation. Merci beaucoup Thierry, et bon courage hein, à Kinshasa. On va partir dans quelques instants pour le Sénégal, mais j'ai une question au sujet de l'immunité. Tout à l'heure, on a parlé des vaccins. Question que pose Amadou, que je vous adresse donc, docteur Nicolas Vigné, question Facebook. Est-ce que la méningite est une maladie immunisante ou bien l'immunité est-elle obtenue uniquement par vaccination ?
Alors, la méningite naît. Alors, encore une fois, on a dit qu'il y avait beaucoup de causes de méningite, donc je ne veux pas être trop compliqué, mais certaines peuvent être immunisantes, mais la majorité d'entre elles ne le sont pas. Et donc, par contre, on a réussi à développer des vaccins qui, eux, sont immunisants contre plusieurs causes de la méningite, dont le méningocoque, dont on parle depuis tout à l'heure, là, qui est particulièrement effroyable, mais aussi contre le pneumocoque, contre la rougeole, les oreillons, qui sont des causes de méningite, ou encore l'hémophilus, qui était une cause de méningite très fréquente des nourrissons, que peut-être vous avez tous oublié, ce qu'on n'en voit plus maintenant, mais qui, quand on parle à des pédiatres qui ont un peu d'expérience, nous racontent que c'était terrible à l'époque. Et depuis la vaccination, on a vraiment réussi à faire reculer ces maladies. Et donc, ça fait partie des grands succès de la vaccination, hein, les méningites, historiquement.
Et il ne faut pas se priver de le rappeler à toutes celles et tous ceux qui pensent justement que ces maladies n'existent plus parce que le système immunitaire y a aidé. Non, c'est la vaccination qui a aidé. On part tout de suite pour le Sénégal.
RFI à Dakar, 92 FM.
Professeur Amadou Sidikia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service du centre de pédiatrie ambulatoire à Dakar. Un pédiatre, hein, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, si la méningite concerne l'ensemble de la population, professeur, on peut dire que les enfants y sont particulièrement vulnérables.
Tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose qui est établi. Hein. Les enfants sont beaucoup plus sensibles aux méningites du fait de l'immaturité de leur système immunitaire et également du fait de la fréquence de certaines infections peut se compliquer de méningite.
Professeur, est-ce que vous pouvez vous rapprocher vraiment de votre appareil téléphonique parce que vous semblez très très loin. Vous avez une voix grave mais on ne l'entend pas suffisamment pour avoir vraiment clairement toutes vos explications. Est-ce que vous avez des chiffres, professeur, en ce qui concerne la prévalence de la méningite bactérienne dans votre pays, le Sénégal ?
Alors, on n'a pas de statistiques nationales exhaustives, hein, mais au niveau hospitalier, les méningites peuvent représenter entre 2 voire même 4% des admissions dans les services de pédiatrie.
Est-ce que la population est bien informée des signes d'alerte ? Tout à l'heure, on parlait justement de ces symptômes, raideur dans le cou, problème de vision, cette photophobie. Certaines personnes ont des nausées, des très très forts maux de tête. Les gens connaissent bien tout cela ?
Alors le problème auquel on est confronté, c'est que comme la méningite touche la tranche d'âge très jeune des nourrissons, la symptomatologie n'est pas toujours aussi évidente que chez les grands enfants ou chez l'adulte. Donc, parfois, la symptomatologie est tout à fait trompeuse, avec au premier plan les signes digestifs, des vomissements, un enfant qui refuse de s'alimenter. Voilà, ce sont des petits signes qui ne peuvent pas forcément orienter vers le diagnostic de méningite.
Surtout qu'une maman peut penser à une gastro, tout simplement, une gastro-entérite.
Voilà. Tout à fait, tout à fait. Le tableau est trompeur.
Est-ce que du fait de ce tableau trompeur, professeur Amadou Sidikia, eh bien, vous prenez en charge des cas assez avancés, on va dire, alors que tout à l'heure, on insistait avec le docteur Vigné justement sur le côté fulgurant, l'urgence de la prise en charge.
Alors souvent, il y a un retard manifeste à la consultation. Il y a une étude qu'on a eu à faire au niveau de l'hôpital principal et on s'était rendu compte que le délai d'admission, d'hospitalisation tournait autour de 4 jours au moins. Donc, ce qui veut dire que pendant 4 jours, on a un processus infectieux au niveau méningite qui évolue. Et donc, forcément, la gravité augmente.
Et une fois sortis de l'hôpital, comment les enfants sont-ils suivis ?
Alors, le problème du suivi est quand même assez complexe parce que nous n'avions pas le long terme ces patients. Surtout que, avec les difficultés d'accessibilité des structures sanitaires, les patients ont souvent, les parents du moins, ont souvent tendance à se décourager, à ne pas forcément faire suivre leurs enfants sur le long terme. Donc il y a un certain nombre de pathologies séculaires qui se développent dans le long terme, comme les déficits intellectuels et autres, qui ne sont presque pas du tout diagnostiqués.
Et les parents ne font pas forcément le rapport entre les deux. En ce qui concerne la vaccination, où est-ce qu'on en est aujourd'hui au Sénégal ?
Alors, il y a quand même de nombreux progrès qui ont été faits en termes de vaccination, puisque actuellement, dans le cadre du programme élargi de vaccination, la vaccination contre l'hémophilus influenzae B, responsable de méningite chez l'enfant, a débuté depuis. Et la vaccination contre le pneumocoque également a débuté depuis 2013. Donc, ce qui veut dire qu'il y a vraiment des avancées significatives. Et sur le plan hospitalier, on s'en rend bien compte par une diminution du nombre de cas de méningite à ces deux germes.
Un dernier message de sensibilisation, peut-être?
Alors, surtout insister sur le fait que il faut que les parents s'évertuent à suivre le calendrier vaccinal jusqu'au bout. D'autant plus que dans le cadre du PEV, cette vaccination est tout à fait gratuite. Et ainsi que les parents continuent à fréquenter les centres de vaccination malgré l'épidémie de la pandémie actuelle. Et surtout insister aussi au niveau des parents sur la nécessité d'une certaine vigilance chez les jeunes nourrissons, hein, de consulter assez rapidement. Un mot à part par rapport aux enfants débilités, les enfants porteurs de drépanocytose sont particulièrement sensibles aux infections, notamment à pneumocoque, qui peuvent déterminer des méningites fulgurantes. Et ces enfants doivent faire l'objet d'un suivi vraiment particulier. Voilà, maintenant, par rapport à la méningite à méningocoque, l'espoir, c'est vraiment de pouvoir faire que le vaccin anti-méningocoque A conjugué puisse être inclus dans le PEV.
Ça, c'est vraiment un combat et c'est un combat très, très important. Merci beaucoup, professeur Amadou Sidikin. Je rappelle que vous êtes chef du service du centre de pédiatrie ambulatoire à Dakar, au Sénégal. Notre échange touche à sa fin. Docteur Vignier, dernière partie de cet échange. On a beaucoup parlé de la méningite bactérienne, mais il faut peut-être pas en oublier d'autres, dues à des champignons, à des parasites. Je pense en particulier à une méningite à laquelle on ne pense pas forcément. Elle est liée à un virus, celui de l'herpès. La méningite herpétique.
Oui, tout à fait. L'herpès est une cause de méningite et même de méningoencéphalite, comme on dit, parce qu'il y a souvent une atteinte du cerveau dès le début, qui peut être très trompeuse, hein, qui rejoint un petit peu l'expérience d'Anacilla tout à l'heure, où ça peut être des personnes qui arrivent avec des troubles du comportement sur la voie publique, avec de la fièvre et qui vont être injustement classé alcoolisé, alors qu'en fait c'est une atteinte du cerveau qui donne ça. Et donc ça c'est pareil, c'est une urgence thérapeutique et le diagnostic repose aussi sur la ponction lombaire, mais également comme il y a l'atteinte de l'encéphale sur l'IRM, hein, l'imagerie par résonance magnétique, qui permet de voir cette atteinte du cerveau. Et on a un traitement efficace contre la méningite herpétique par voie intraveineuse, un antiviral qu'il faut débuter rapidement.
L'urgence, on a bien compris, c'est le signal d'alerte et c'est d'agir avec la plus grande rapidité. Merci infiniment, excusez-moi de vous avoir coupé pour ce mot de la fin, docteur Nicolas Vignier. Je rappelle que vous êtes infectiologue au centre hospitalier de Cayenne. Très bonne journée aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent en Guyane. L'alimentation et la santé dans Priorité Santé, on en parle tout de suite avec vous. Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Aujourd'hui, on va parler en particulier de la santé de nos reins. Et pour commencer, on va faire une petite leçon d'anatomie avec le rôle que jouent nos deux reins dans notre corps.
Alors les reins, c'est deux petits organes qui ont une forme de haricot et qui sont situés à gauche sous la rate et à droite sous le foie. C'est une partie de l'appareil urinaire, hein, avec notamment les uretères, la vessie et l'urètre. Alors, la fonction principale du rein, c'est de filtrer et d'épurer notre sang. C'est un organe vraiment qui a un rôle central. Il faut quand même rappeler qu'avant le rein, il y a déjà le foie qui va détruire certaines toxines, qui va détruire les médicaments et transformer, ce qui est très important, l'ammoniac en urée. Et une fois ces toxines transformées par le foie, il va les envoyer dans le sang et c'est par l'artère rénale, qui est une branche de l'aorte, que ce sang va arriver au rein. Et là, le rein va commencer son travail grâce aux néphrons, qui vont avoir un rôle central en filtrant ces déchets et ces toxines, mais aussi l'urée, les acides et les minéraux en excès, c'est très important, comme le sodium, le potassium et le phosphore. Et c'est tout ce processus de filtration qui va produire l'urine, qui va ensuite être évacué de l'organisme après le stockage dans la vessie par l'urètre.
Alors, autre rôle que jouent nos reins, c'est pour l'équilibre hydrique, on va dire l'hydratation de l'organisme.
Ah oui, alors ça, il va jouer un rôle central dans le maintien de cet équilibre hydrique, mais aussi l'équilibre des minéraux et l'équilibre acido-basique qui va être nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme. Alors, on sait que chaque jour, de manière naturelle, que ce soit par la transpiration, par les urines, par la respiration, on perd à peu près 1,5 litre à 2 litres d'eau. Et donc, pour rester en bonne santé, il faut absolument compenser ces pertes par notre alimentation et en plus par la boisson qu'on va prendre toute la journée. Et en fait, ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fait, le rein va filtrer à peu près 200 litres de sang par jour, ce qui est énorme. Et cette filtration va aboutir à la perte de 1,5 à 2 litres d'urine. Et c'est ça qu'on récompense par la boisson. Donc, c'est cette recompensation qui est très importante pour que le rein fonctionne parfaitement. Alors, en plus de son rôle dans le maintien de la quantité d'eau, le rein il va aussi permettre de maintenir les concentrations en sels minéraux, notamment le sodium, le potassium. Il va aussi permettre de réguler l'équilibre acido-basique, c'est-à-dire de maintenir le pH à la neutralité de notre organisme. Donc, tout ça est vraiment très important. Et à côté de ces fonctions d'équilibre, il ne faut pas oublier que le rein va produire une hormone, la rénine, qui va participer à la régulation de la tension artérielle, ou encore le calcitriol, qui est la forme active de la vitamine D. Donc on voit un organe qui a un rôle central.
Absolument central. Alors justement, en matière d'alimentation, est-ce qu'il peut y avoir justement des conseils pour protéger la santé des reins?
Alors d'abord, si on n'a pas de problème de rein, alors ce qui est très, il faut garder un mode de vie sain pour le protéger et surtout éviter, j'allais dire, deux maladies qui sont l'hypertension artérielle et le diabète qui, eux, ont des conséquences terribles sur le rein puisque ça peut amener quasiment à la destruction du rein. Pour ça, c'est les conseils classiques d'alimentation équilibrée et diversifiée, mais c'est bon de le redire. Intensifier la consommation de fruits et légumes pour arriver aux 5 fruits et légumes par jour. Assurer un apport adéquat en micronutriments, vitamines et minéraux et en protéines, limiter la consommation de graisse, de sel et de sucre, d'alcool aussi, s'hydrater correctement, on a dit tout à l'heure, avec à peu près 1,5 litre d'eau par jour, en rappelant bien que c'est l'eau qui est la boisson obligatoire. Et en plus, ce que les gens oublient très souvent pour le rein, c'est que le tabagisme est très nocif. Il faut stopper ou ne pas commencer si on n'a pas commencé, stopper si on fume le tabagisme. Et enfin, un autre conseil dans les pays, notamment en Afrique, où beaucoup de plantes médicinales ou en infusion peuvent être consommées, il faut faire attention et être sûr que c'est des plantes qui n'ont pas d'effet toxique parce que le rein peut être en première ligne de toxicité par les plantes.
Et c'est ce qu'on a vu notamment pour lutter contre le coronavirus. Il y a eu des gens qui sont faits des infusions massives et il y a eu des cas d'insuffisance rénale qui nous ont été rapportés par des médecins cliniciens. Alors, on a parlé de conseils quand nos reins allaient bien. Maintenant, en cas de maladie rénale, Stéphane Besançon, est-ce qu'il y a des conseils pour l'alimentation précis?
Oui, là, c'est central. L'alimentation et l'hydratation ont un rôle vraiment central. Alors, il faut d'abord, le premier conseil dans les recommandations internationales, c'est d'augmenter la part des aliments comme les fruits et les légumes pour avoir une alimentation, on va dire, alcalinisante. Par contre, il y en a quelques-uns qu'il faut éviter. Donc, oui, pour les fruits et légumes, augmenter. Par contre, il faut faire attention aux pêches, aux prunes, aux pruneaux, aux abricots, aux mangues et aux bananes, mais aussi aux fruits secs qui, eux, vont remonter le niveau de potassium, ce qui n'est pas très bon. Il faut limiter l'apport en protéines. Alors, la recommandation, c'est 0,8 grammes par kilo, ce qui représente, pour être plus pratique, à peu près 50 grammes pour les femmes et 60 grammes pour les hommes, et en favorisant la consommation de protéines végétales par rapport aux protéines animales. Ça veut dire moins de viande, plus de végétaux. Mm-hmm. Limiter la consommation de sel, ça c'est central, en essayant de respecter la recommandation de l'OMS de 5 grammes par jour. Et limiter l'apport en phosphore. Alors là, pour ça, il faut limiter la consommation d'abats, de sardines, de légumes secs ou de lait ou encore de fromage. Ça c'est important aussi. Et dernier conseil, c'est si on arrive à une insuffisance rénale très forte qui nécessite une dialyse, là il y aura des adaptations supplémentaires et surtout l'adaptation de l'eau qui doit être ingérée doit être vraiment très précisément calculée. Et ça se fait avec un médecin au cas par cas en fonction de l'insuffisance et de la dialyse, c'est important, mais il faut bien y penser que c'est des éléments centraux.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste. À bientôt dans Priorité Santé. Et merci à toute l'équipe qui prépare votre émission tous les jours. Demain, nous allons parler du narcissisme, égocentrisme et même du narcissisme pathologique. De quoi s'agit-il? On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sunou Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner tout au long de cette nouvelle année qui s'annonce digitalement innovante. Sunou Assurance, notre métier, l'assurance.
7 milliards de voisins, c'est dans 10 minutes précisément.